tout de suite, c'est donc le grain et c'est le club comme chaque vendredi avec la question suivante. Une minorité peut-elle décider pour le plus grand nombre ? Bonsoir à toutes et à tous, c'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Deux symboles face à face, deux façons de faire vivre la démocratie. De ce côté-ci de l'Atlantique, Paul Magnette, ministre-président de la région Wallonne en Belgique. L'homme qui aura tenu tête aux Canadiens et aux Européens en refusant de signer le CETA. De l'autre, Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, intronisé il y a tout juste un an, tête de gondole de la modernité en politique, proche du peuple, proche des gens. De ce combat à distance, aucun des deux ne sort vraiment battu. L'accord de libre-échange devrait finalement être signé entre Nord-Américains et Européens, mais un accord amendé garantissant par exemple la pérennité des services publics. Alors, il a beaucoup été écrit ces derniers jours sur cet épisode. Certains ont vu dans la résistance wallonne l'équivalent du combat mené par d'irréductibles Gaulois. D'autres, l'insupportable tyrannie d'une minorité peu soucieuse de la volonté générale. Alors, c'est à partir de cet antagonisme que nous avons choisi de réfléchir ce soir en interrogeant le statut de la minorité en démocratie. Une minorité peut-elle décider pour le plus grand nombre ? C'est la question que nous avons donc choisi de poser ce soir à notre club des idées, réduit à un seul de ses membres pour cause, je le disais tout à l'heure à 18h, et de vacances scolaires et de virus qui circulent, semble-t-il, dans la capitale. Ludivine Bantigny, bonsoir.
Bonsoir, je suis la minorité devenue majorité.
Voilà, vous êtes la rescapée du club de ce vendredi. Historienne, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Rouen, mais vous n'êtes pas seule. Ce soir, puisque nous avons invité pour discuter de cette question, Albert Augien, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue et directeur de recherche au CNRS. Vous avez publié en 2014 Le principe démocratie, enquête sur les nouvelles formes du politique. En 2010, Pourquoi désobéir en démocratie, ouvrage que vous avez signé avec Sandra Laugier aux éditions La Découverte.
En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains.
On n'est pas contre un accord de commerce avec le Canada. On ne veut pas que les normes sociales, environnementales, que les services publics puissent être affaiblis. Et on ne veut surtout pas d'un tribunal privé qui permettrait à des multinationales d'attaquer les États et leurs législations. Si on peut trouver un accord là-dessus, alors on avancera.
Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est 15 ans d'affrontements juridiques et physiques. Depuis 2010, les zadistes occupent le bocage. Février 2012, les tentatives d'expulsion tournent à l'affrontement. Février 2014, une manifestation d'opposants dégénère dans le centre de Nantes.
Il y a une radicalisation aujourd'hui de la CGT. Moi, j'aimerais bien entendre de temps en temps d'autres syndicats qui, eux, soutiennent, en tout cas valident le projet de loi travail porté par Myriam El Khomri. En tout cas, la CGT aujourd'hui est sur le devant de la scène. Une extrême minorité ne peut pas prendre en otage, finalement, un pays.
Je veux parler au nom de ceux qui constituent la majorité silencieuse. Je veux être le porte-parole de cette France-là, de cette France qui est majoritaire et qui n'en peut plus de la tyrannie des minorités.
Voilà, petit montage sonore proposé comme chaque semaine par Jean-Christophe Francis et à partir duquel nous allons puiser quelques éléments de réflexion pour cette discussion. Mais je vous propose à l'un et à l'autre, Ludivine Bantigny et Albert Augien, de démarrer par ce qui a provoqué cette envie de faire l'émission de ce soir, à savoir la résistance du Parlement wallon qui a refusé pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines, parce que ça remontait bien avant la médiatisation de ce refus de signer le traité. Finalement, ça a été accepté. Ça doit être validé dans les prochaines heures et les prochains jours, mais moyennant quelques concessions. Est-ce que vous diriez que dans cette affaire, Albert Augien, c'est le Parlement wallon qui a capitulé en acceptant finalement de signer le traité, ou bien c'est le Canada qui a capitulé en acceptant les concessions que réclamaient les Wallons?
Alors écoutez, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est une négociation ordinaire. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors, peut-être parce qu'on n'a pas regardé au fond l'histoire de cette négociation. Et l'histoire de cette négociation, c'est quand même un Parlement wallon qui a demandé il y a plus d'un an et demi les points de négociation sur lesquels il n'était pas d'accord ou il voulait des éclaircissements. Et à la fois, disons, les autorités belges et les autorités européennes ont considéré que c'était une minorité qui allait se taire et qui allait s'écraser d'une certaine manière. Et donc, il n'était même pas la peine de leur parler. Et jusqu'au 27 avril, où effectivement, ils ont relancé à nouveau cette question. Donc, je ne vais pas faire l'histoire très, très longuement, mais les points en débat étaient sur la table depuis très, très longtemps. Et d'une certaine manière, on peut dire que c'est cette minorité de gens qui dirigent l'Europe ou qui dirigent un pays, qui considèrent que les minorités, contrairement à ce que Sarkozy dit, qu'elles ne sont pas très importantes et que de toute façon, elles vont s'aligner, puisqu'elles n'auront pas la force de résister, en particulier si on leur dit, vous savez, les Wallons contre l'Europe, ils ne vont pas tenir très très longtemps. Donc, ce qui est étonnant, c'est que le déni de démocratie, il a plutôt été à l'encontre du Parlement Wallon, dès lors qu'on sait que la nature du traité, c'est un traité mixte, et donc que ça engageait les parlements régionaux. Donc, alors, tout le monde est très très surpris, parce qu'on pense, disons en France, qu'il y a un Parlement, ou qu'il y a un président de la République qui peut faire ce qu'il veut. Mais dans d'autres pays, c'est plus démocratique qu'ici. Et dès lors qu'on savait que c'était mixte, on savait que les parlements allaient se prononcer. Donc,
en tout cas, dans notre pays comme la Belgique, c'est une fédération. Donc, l'organisation institutionnelle est relativement différente de celle qu'on connaît en
voilà,
France,
mais,
ce qui explique
mais,
aussi
mais,
voilà,
mais,
le poids de ces parlements régionaux.
Tout à fait. Et à nouveau, il y a 40 parlements, donc pas 28 parlements qui vont devoir s'exprimer. Le traité aujourd'hui, bon, les Wallons ont été... Le problème, c'est que les Wallons étaient les premiers à devoir s'exprimer. Enfin, les Belges étaient les premiers à devoir s'exprimer sur la liste. Mais quand on regarde, personne n'a ratifié ce traité pour l'instant. Et on attend de voir ce que les Bulgares, ce que les Roumains vont dire. Est-ce que, je ne sais pas, l'Écosse peut dire, l'Irlande, je ne sais pas qui sont les parlements, les autres parlements régionaux. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que quand même, dans cette affaire-là, et si on revient à la question de la minorité, je trouve que c'est comme un déni incroyable d'avoir fait des Wallons une minorité, alors qu'en fait, ils sont eux l'objet... disons, de l'écrasement par la soi-disant voix de la majorité.
Edivine Mantini ?
Oui, moi je suis d'accord et je voudrais aussi revenir tout simplement sur la question. Parce que cette question émerge au sujet d'un thème qui suscite le malaise. En l'occurrence, là, le nom au CETA, mais ça pourrait être le nom au TAFTA, etc. Et ce qui me frappe, c'est qu'on ne se pose pas trop cette question de manière plus générale. Par exemple, Sarkozy ou le Parti Socialiste, qui aujourd'hui est le parti qui gouverne en France, en réalité gouverne sur la base de 12 à 13% de l'ensemble du corps électoral. Mais est-ce que on se pose jamais cette question qu'une toute petite minorité s'est prononcée en faveur de ce gouvernement et de ce parti? Et en outre, là je rejoins aussi Albert Rogien, hein, sur ce que représentent à la fois ces gouvernements et les gens qui par ailleurs nous gouvernent également à Bruxelles. Donc je pense qu'il faut s'interroger aussi sur la légitimité et la pertinence de poser cette question au-delà des questions qui dérangent et qui dérangent en fait assez majoritairement, je parle pas de France Culture, mais qui dérangent une majorité de médias qui, voilà, sur les questions de l'Europe, sont toujours dans la stigmatisation de celles et ceux qui disent non.
Donc alors, ce que vous voulez dire, c'est qu'à partir du moment où on émet une critique sur le poids qui peut être jugé excessif de ce Parlement wallon sur une question, même si institutionnellement c'est prévu, hein, donc il n'y avait rien d'illégal dans cette façon de s'opposer à ce traité CETA, mais une contradiction dans le fait de dire, voilà, il y avait peut-être une forme d'abus de pouvoir de ce Parlement wallon qui ne représente finalement pas grand-chose, c'est-à-dire la population wallonne, enfin, les habitants de la région Wallonie, c'est 3,5 millions d'habitants, c'est 0,7% de la population de l'Union européenne, et en même temps, de considérer comme légitime, c'est-à-dire un gouvernement qui ne représente pas la majorité de la population française.
En fait, ce qui me frappe également dans la manière dont on pose la question, c'est le silence qui est porté sur d'autres votes qui ont déjà eu lieu à ce même sujet, soit sur le CETA, soit sur le TAFTA. Il y a de nombreuses municipalités, et non des moindres, par exemple Amsterdam, Cologne, Édimbourg, Grenoble, Barcelone, Milan, Vienne, Thessalonique, entre autres, qui se sont prononcés contre ces traités, à la fois sur la forme, en protestant contre leur manque de transparence, le manque de transparence des négociations, et puis sur le fond, principalement, hein, pour un désaccord politique sur les conséquences sociales et économiques de ce type de traité. Donc au total, ça représente 75 millions d'Européens, quelques 2000 collectivités territoriales. Mais on en parle très peu. Et donc on se focalise vraiment sur ce pauvre Parlement wallon qui, lui-même, a beaucoup travaillé. Ça fait partie aussi de la question, c'est-à-dire que dans cette minorité supposée supposée qui s'est prononcée face à une majorité elle-même supposée. Il y a eu un énorme travail de documentation, d'information, et ça, c'est une question aussi très importante quant au rapport minorité-majorité.
Cela dit, vous parlez des médias, il y a aussi beaucoup de médias hein, qui ont plutôt applaudi le fait que voilà, cette petite région européenne réussisse à résister justement à la masse de ces deux grandes entités que sont le Canada d'un côté et l'Union européenne. Albert Ogia, est-ce qu'on peut pas au moins voir dans cet épisode qui est toujours en cours d'ailleurs la preuve que l'Europe n'est peut-être pas si antidémocratique qu'on la présente d'habitude, c'est-à-dire la présente en général comme un monstre bureaucratique où la démocratie a énormément de mal à exister. Or là, il apparaît, c'est peut-être une révélation pour beaucoup de gens, qu'il y a des instruments à l'intérieur, il y a le Parlement européen, mais il y a aussi d'autres parlements qui permettent le débat démocratique, il suffit de les utiliser.
Oui, moi je suis très d'accord avec ce point de vue. Il est vrai que je n'aime pas les gens qui sont défaitistes politiques, mais il faut comprendre cette question. La question, c'est comment a-t-on vécu ou présenté l'Europe aux citoyens européens? Tout le monde sait bien que chaque gouvernement national s'est retranché derrière ses frontières pour dire que tout ce qui était mal, c'était l'Europe qui le leur imposait, et ce qui était bien, c'est eux qui le faisaient en se battant contre Bruxelles. Alors, la réalité, tant qu'elle demeurera la réalité, c'est que nous sommes des citoyens européens. Et qu'est-ce qui a été fait pour créer une société civile, une société politique européenne? Pas grand-chose. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'Europe... Il y a une difficulté, effectivement, à comprendre quels sont les outils démocratiques dont nous disposons en tant que citoyens dans une entité de 500 millions d'habitants. Ça, je comprends que c'est un peu compliqué à comprendre. Alors, on va dire les Wallons à 3,5 millions, de passer de 3,5 millions à 500 millions, ça fait compliqué. Les Français, bon, on est 60 millions, 70 millions, ça doit être moins compliqué. Mais... La vérité, c'est qu'on n'a pas développé... les institutions européennes sont quand même des institutions qui fonctionnent sur une drôle de méthode. Et je pense que ce que Yanis Varoufakis essaye de faire... Alors bon, je suis pas un défenseur, je suis pas adhérent à sa proposition.
Je rappelle, c'est l'ancien ministre de l'économie grec.
Qui a lancé un parti qui s'appelle Diem.
Qui est issu des
rangs de Syriza, qui était... d'une certaine manière, pour la rupture sur la question de l'euro, donc qui a quitté le gouvernement sur le désaccord avec Tsipras sur cette question-là, mais qui pense, j'ai tendance à penser qu'il n'a pas tort, qu'en fait, il faut s'emparer de l'Europe et des outils qui y sont, mais simplement que les citoyens sont trop éloignés de ça. Et donc voilà, je ne pense pas que l'Europe soit un obstacle. Je pense qu'il y a un travail à faire, un travail de création, et je pense qu'il est en cours d'ailleurs, mais on le voit pas parce qu'il ne transite pas par les partis politiques vraiment, peut-être par écolo et par d'autres bordures, mais il y a un travail à faire pour, comment dire, considérer que nous sommes des citoyens européens, analyser les outils démocratiques que l'Europe nous donne et les prendre en main.
Pour rester encore un instant sur le niveau européen, je voudrais vous soumettre une hypothèse. Imaginons que le même Parlement wallon et refuser de signer un autre accord qui engage de grandes entités. Je pense par exemple à l'accord de Paris, accord sur le climat. Est-ce que vous auriez considéré que la légitimité de cette résistance-là, de ce Parlement minoritaire par rapport au reste de l'Europe, même si c'est une majorité représentative qui a été élue, est-ce que vous lui auriez trouvé la même légitimité l'un et l'autre?
Je m'excuse, parce que c'est juste un point de détail, c'est que les Belges ne se sont pas mis d'accord pour signer ce contrat, ce traité de Paris, et qu'il y a eu des terribles négociations entre les Wallons et les Flamands à l'intérieur, mais la nature du traité faisait pas que les parlements régionaux étaient concernés par ça. Il fallait avoir un accord au niveau de la Belgique.
Mais imaginons qu'ils soient concernés. On peut partir sur des hypothèses aussi pour réfléchir justement à ce qu'est une minorité, à ce qu'est une majorité.
À ce moment-là, il faut prendre comme exemple le Brexit et la discussion qui a eu lieu après le Brexit pour savoir est-ce que des questions de cette nature-là doivent être données à un référendum simple ou est-ce qu'il faut avoir un référendum avec... disons, des modalités plus compliquées. Par exemple, en Australie, quand une question touche le pays, il faut que les 6 parlements régionaux expriment un vote à la majorité aux 2/3 et que le Parlement fédéral exprime aussi un vote à la majorité des 2/3. Donc, des gens ont dit, juste après le Brexit, le lendemain, ont commenté dans la presse anglaise que j'ai lue, que la procédure ne correspondait pas à des questions tellement importantes. Donc la question de la majorité, est-ce que le Brexit peut se jouer à 50 plus une voix, ou est-ce qu'il faut que chacun des parlements, par exemple l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, s'exprime d'abord, et puis que la majorité soit fixée, soit une majorité qualifiée à 75% de l'électorat. On voit bien que la règle de la majorité peut, selon les questions, varier.
Moi, je remarque que vous n'avez pas vraiment, en tout cas pas directement répondu à mon hypothèse, Ludivine Bontigny.
Mais je ne vais pas le faire davantage et je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne suis pas défaitiste du point de vue politique, hein, pour reprendre les termes d'Albert Rogien. Mais en revanche, je suis très critique et très pessimiste sur les institutions européennes. Pas sur l'Europe. C'est toujours une ambiguïté, l'Europe, si on n'est pas européen. Non, sur les institutions européennes, sur l'Union européenne telle qu'elle est. Et pour moi, ce ne sont pas du tout des institutions démocratiques. Donc, c'est difficile du coup d'entrer dans ce jeu des hypothèses si on part de cette critique fondamentale. Moi, ce qui me, puisqu'on parle du Brexit, on pourrait aussi revenir sur l'exemple du traité constitutionnel européen de 2005. Où est la démocratie et où est la véritable majorité quand on subit, alors là pour le coup, dans les médias, mais d'une manière extrêmement hégémonique et assez écrasante, toutes sortes de pressions et d'intimidations. Je vous rappelle des formules qui avaient été prononcées en 2005, au moment du traité constitutionnel. Dominique Strauss-Kahn qui disait que si c'était le non qui l'emportait, ça serait un effet de souffle d'une bombe atomique. Jacques Delors qui disait que ça serait un cataclysme politique. Enfin bref. Quand on subit de telles pressions sur des traités aussi complexes, on pourra revenir également sur Notre-Dame-des-Landes, ça me semble un sujet aussi très important en la matière, sur la question, encore une fois, de l'information politique. Moi, je pense que la démocratie est déjà biaisée quand les questions nous sont présentées de cette façon. Et elle est biaisée également quand, finalement, le non l'emporte, comme ça a été le cas en 2005, comme ça a été le cas pour le Brexit, où on nous dit, Bernard-Henri Lévy, tout le monde sera d'accord pour considérer que sa parole n'est pas d'or. Mais qu'est-ce qu'il dit après le Brexit? Alors voilà, c'est une majorité qui l'emporte. Alors il dit, mais c'est pas le triomphe de la démocratie, c'est le triomphe de la démagogie. Ce n'est pas le triomphe du peuple, c'est le triomphe du populisme. Alors ça veut dire que quand les intellectuels et les médias dominants sont favorables à un oui qui l'emporte aussi à la majorité, là c'est de la démocratie. Et puis quand c'est le non, c'est considéré comme antidémocratique.
Mais est-ce que ce n'est pas
les insultes?
Est-ce que ça n'est pas exactement la même chose que vous faites, Ludivine Bontigny et Albert Rogien? C'est-à-dire quand finalement une démarche d'opposition ou un rejet convient ou correspond à vos idées, vous allez y voir l'expression de la démocratie. Oui. Et puis quand ça n'est pas conforme, oui, peut-être à vos attentes ou à vos idées politiques, vous allez au contraire considérer que c'est un déni de démocratie. On a l'impression que finalement on va pas juger de la même façon les choses selon que le résultat nous semble favorable ou défavorable.
Non, moi je parle pas des résultats, je parle du cadre. Et je pense que le cadre d'un référendum, par exemple, pour revenir sur le cas de Notre-Dame-des-Landes, d'un référendum organisé dans les conditions d'un déséquilibre outrancier dans la diffusion de l'information. Parce qu'il y avait d'un côté Vinci, tout le patronat du BTP, le MEDEF, le préfet, qui d'ailleurs, le préfet de région, qui s'est ensuite transformé en un cadre de Vinci. Enfin, il y a des problèmes déontologiques absolument majeurs dans ce cas. Il y a un déséquilibre tout à fait fondamental dans l'information. Et au final... il y a une majorité, certes relative, qui se dégage, mais
55%, s'agissant du référendum de Notre-Dame-des-Landes.
Dans les communes véritablement concernées, à Notre-Dame-des-Landes même, plus de 73%. Dans les communes aux alentours, Vigneux de Bretagne, plus de 69%. Grandchamp-des-Fontaines, plus de 66%. À Nantes, ça s'est joué à 100 voix d'écart.
Bon, alors, il y avait peut-être
donc ça pose en fait toujours la question, encore une fois, de l'information politique, de la réflexion qui nous est livrée. Et donc, juste pour terminer, d'esquisser non pas une réponse sur votre hypothèse, mais en tout cas une petite réflexion, c'est que, en fait, une minorité fait toujours réfléchir, en tout cas. Elle nous aide à réfléchir parce que elle est dans la critique d'un point de vue dominant, et donc elle nous ouvre d'autres possibles, des alternatives auxquelles on n'a pas forcément pensé si on suit cette hégémonie qui peut être extrêmement complexe et diverse.
Voilà, juste sur la question de Notre-Dame-des-Landes, puisque comme ce soir, je suis un petit peu obligé de sortir de mon rôle d'arbitre habituel, parce qu'il y a peut-être un peu moins de contradictions, même si évidemment il y a des nuances entre vous deux, mais on peut aussi dire que s'il y avait peut-être une disproportion dans les moyens qui étaient proposés, il y avait aussi une disproportion dans le militantisme, c'est-à-dire vous aviez quand même d'un côté les opposants au projet de Notre-Dame-des-Landes qui sont beaucoup plus organisés que ceux qui sont pour, et qu'il y a cette forme de majorité silencieuse toujours de ce côté. Enfin, nous, on a fait deux émissions justement à Nantes, et je trouve quand même que ce déséquilibre, il existait quand même. Enfin, on va pas faire non plus toute l'émission sur Notre-Dame-des-Landes. Ce que vous disiez, en tout cas, par rapport à l'intérêt de la minorité en démocratie, c'est quoi l'intérêt justement d'une minorité en démocratie, Albert Rogien? Est-ce que finalement, ça n'est pas plus efficace qu'une majorité, au sens où une minorité, finalement, c'est quelque chose qu'on arrive à cerner, c'est quelque chose qui est davantage organisé justement qu'une majorité qui est peut-être dont les contours sont un peu plus flous et dont on nous dit qu'elle est souvent silencieuse, pour reprendre les termes de Nicolas Sarkozy, mais enfin, il n'y a pas plus qui utilise cette expression-là.
Là, les choses se compliquent un peu. Soit on considère la majorité et la minorité dans un scrutin, sur un mode électoral ou sur un mode militant. Alors, on vit dans un monde qui est relativement bien ritualisé autour des élections. Et dans les élections, on constate, à part Donald Trump, que les gens acceptent assez bien qu'à 50 plus 1, quelqu'un est élu. Donc ça, c'est pas remis en cause. Hein. C'est pas comme à Notre-Dame-des-Landes. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah, on a mal compté ». Enfin bon, sauf dans les pays où notoirement c'est mal compté.
Même s'il y a un fort taux d'abstention d'ailleurs. C'est-à-dire on va accepter la légitimité d'une élection.
Absolument.
Même si,
voilà. Et ça revient exactement à ce que le Divine dit et qui m'a toujours frappé. Comment se fait-il qu'un gouvernement qui a 14 ou 4% de sondage de faveur, disons, comment on appelle ça?
Opinion favorable de François Hollande, d'après le dernier sondage de Cevipof, c'était il y a quelques jours 4%.
On voit pas du tout de gens qui manifestent dans la rue, les croix de feu qui descendent, ou toutes sortes de partis séditieux qui demandent la démission d'un pouvoir qui n'est pas très très légitime. Hein, bon. Et donc, il y a un culte, une volonté, un souci d'assurer la stabilité des institutions, et donc on ne renverse pas. Donc, centralement, il y a la question de la légitimité. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a deux plans. Il y a le plan des élections. Sur des élections, on a intégré cette notion. On accepte assez bien le système d'alternance. Je rappelle qu'un système d'alternance, la démocratie fondée sur l'alternance, elle donne une place à la minorité, même dans le sens où une majorité ne peut pas faire ce qu'elle veut contre la minorité. Donc la majorité doit se retenir de faire des choses parce que le principe de l'alternance veut que on ait une sorte, ce que j'appelle moi, une sorte de consensus démocratique de base, duquel on ne dévie pas. À partir du moment où un parti essaie de dévier, c'est probablement ce qu'il y a derrière la tête quand on pense au Front National, c'est de savoir est-ce que vraiment il participe du consensus démocratique ou pas. Jusqu'à un certain moment, on pensait que non. Aujourd'hui, on pense que oui. C'était pareil en Belgique avec les partis nationalistes flamands qu'on a écartés, on a mis une frontière, on voulait pas en parler. Donc, voilà. Ça c'est une chose. Donc dans ce cadre du consensus démocratique, on va dire les questions réglées par le vote ne sont pas contestées parce qu'on est dans une démocratie où les comptes sont bien faits et où l'information, un peu contrairement à ce que Divine dit, bah finalement on est tous un peu informés. Il y a plein de réseaux, il y a plein de choses. Bon, je n'aime pas tellement la thèse de marteler, qu'il y ait des pouvoirs qui martèlent et qui disent aux gens ce qu'ils doivent penser. Je pense qu'une majorité, par exemple dans le Brexit, c'est très très composite. En fait, on ne sait pas. Quand on dit il y a une majorité qui a voté, c'est tellement de gens différents ou tellement d'options différentes qui se sont rejointes sur ce point-là que finalement dire il y a une majorité, bon, il y a une majorité, voilà, mais elle était très composite. Donc ça, c'est au plan des élections où on accepte plutôt le principe majorité-minorité avec l'idée que la majorité va pas être outrancière.
Et puis il y a le moment entre les élections aussi.
Alors il y a le moment entre les élections et là, évidemment, la majorité, elle, qui vote, se tait. Ça, c'est comme ça. Et puis il y a des minorités actives qui font vivre le débat démocratique. Mais elles sont pas dangereuses. Elles sont magnifiques. C'est plutôt ce qui est dommage, c'est que pas plus de citoyens ne se mobilisent, pas plus de politiques ne parlent de questions politiques. C'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça qu'on pense que la démocratie est un peu en défaut, c'est qu'on n'a pas de débat. Et il y a que, et même c'est un véritable symptôme de voir que s'il n'y a que des minorités actives qui s'expriment dans une démocratie, c'est que la démocratie marche pas bien.
Sur la question de l'utilité de ces minorités actives, alors il se trouve qu'on a fait avant-hier une émission sur l'écologie politique avant le second tour de la primaire à Europe Écologie Les Verts. Il a beaucoup été question dans cette émission d'un des penseurs de l'écologie politique, un des penseurs français, Serge Moscovici, et qui, à propos justement des minorités actives ou des minorités agissantes, disait ceci: la plupart des changements sociaux sont l'œuvre des minorités. Et il y voyait plusieurs avantages. La minorité, elle est forcément critique. Par définition, elle est critique. Il y a un effet unificateur en son sein qui entraîne de la production d'idées. Et puis, c'est à travers les minorités qu'on peut faire de l'expérimentation et de l'expérimentation sociale. Ludivine Montigny, est-ce que vous diriez que, en démocratie aujourd'hui, la minorité est suffisamment protégée pour être utile, voire efficace?
Si on prend des exemples récents, justement, la supposée minorité dont parlait Nicolas Sarkozy, qui manifeste contre la loi travail, à mon avis, c'est pas du tout une minorité, mais en tout cas, elle est pas très protégée des matraques des policiers. Les zadistes ne sont pas non plus protégés, et en fait, il y a vraiment urgence à se mobiliser pour défendre la ZAD. Il y a vraiment un risque très grave de violence, et on pense surtout au mois d'octobre, on pense à Rémi Fraisse, qui a été tué dans le cadre de son combat pour l'écologie, justement, par des gendarmes. Mais je pense, moi, je suis d'accord avec l'analyse qui est faite sur la qualité critique des minorités. Comme historienne, moi, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de la guerre d'Algérie. Il y avait des réfractaires. Ils étaient très, très peu nombreux, les réfractaires, à la guerre d'Algérie. Ils étaient 12 000 sur 1 200 000 appelés dans cette guerre. C'était peu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on dirait que ces minoritaires avaient tort? Est-ce qu'aujourd'hui on dirait que la majorité devait l'emporter, que le gouvernement était légitime à appliquer cette guerre avec les méthodes qu'on sait? Moi, je me dis toujours aussi, également en tant qu'historienne, que démocratie, il faut faire attention, vous voyez, parce que, par exemple, sous le Second Empire, je cherche pas à faire des comparaisons, même si on a souvent rapproché le Second Empire et son bonapartisme des institutions de la Ve République. Officiellement, c'était une démocratie. Même Napoléon III avait encore accentué l'extension du suffrage universel, bien sûr uniquement masculin, il ne fallait pas exagérer non plus dans le libéralisme politique. Mais pour autant, en fait, le vote était extrêmement contrôlé. Et tous les pouvoirs à l'échelle nationale comme à l'échelle locale faisaient tout pour que les candidats dits officiels l'emportent très largement par toutes sortes de moyens de pression qui étaient extrêmement conséquents. Bon, je pense qu'il faut s'interroger. Et moi, j'irais... Bon, là où je ne partage pas tout à fait votre avis, Albert Rogien, c'est sur le fait qu'il y a une démocratie de la majorité 50+1. Voilà. Moi, je pense que des expériences critiques et minoritaires comme celle de Notre-Dame-des-Landes, on pourrait en citer bien d'autres, Nuit debout, pourquoi pas, quitte à ce que je me fasse encore fustiger dans les commentaires de cette émission, je ne fétichise pas Nuit debout, mais en tout cas, je pense que ce sont des expériences qui mettent en cause, en tout cas qui réfléchissent différemment à la démocratie. Et historiquement, c'est aussi une expérience.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence fondamentale entre l'expérience qui a été celle de Nuit debout et l'expérience qui est celle de Notre-Dame-des-Landes, en termes de minorité active? C'est que Nuit debout n'a pas cherché à aucun moment à imposer son choix, contrairement à Notre-Dame-des-Landes, où là, on est vraiment dans une minorité, si on considère qu'elle est devenue minoritaire par le biais du suffrage universel de ce référendum, et que là, il y a un jusqu'au boutisme, on dit... On ne reviendra pas, on veut faire de la désobéissance civile, et il n'est pas question d'accepter finalement le verdict des urnes. C'est pas tout à fait, il me semble, la même approche.
Comme je le disais tout à l'heure, le verdict des urnes, par exemple, il y a eu une sorte de réflexion commune aux habitants de la ZAD et à Nuit debout, avec, voilà, on vous propose un autre référendum, avec d'autres questions. Alors ces questions, c'était pas juste, est-ce que vous êtes favorable à l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, c'était, est-ce que en se documentant, est-ce que vous êtes favorable à la délégation de services publics de 55 ans, qui fait que ce sont les contribuables qui vont payer tous les investissements liés à l'aéroport, mais qu'en revanche, ce sont les actionnaires de Vinci qui vont empocher tous les dividendes. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'un préfet devienne un salarié de Vinci, alors même qu'il a validé et acté le projet?
Question qui aurait été particulièrement biaisée si elle avait été posée de cette manière. De toute manière,
mais
une
non.
question.
Mais c'est-à-dire, non, ça suppose que le référendum avec juste une question comme celle-là, c'est d'emblée une démocratie qui est biaisée. C'est-à-dire que pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait une réflexion commune. Et donc là où je voulais en venir, et je termine vraiment rapidement, c'est que ces minorités critiques, elles interrogent la démocratie représentative. Et cette démocratie représentative, par opposition à la démocratie directe, où on mettrait justement en commun du politique, C'est une question qui s'est historiquement posée. Elle ne nous est pas naturelle. Elle n'a rien d'une évidence. Il faut y réfléchir autrement. Et ces minorités nous aident à y réfléchir différemment.
Allez, Rogien.
Oui, oh là là. Écoutez, évidemment, vous avez évoqué la désobéissance civile et probablement, il y en aura-t-il un petit peu autour de Notre-Dame-des-Landes. D'abord, je dois dire que il me semble que ce que vous avez appelé des minorités dans les régimes que nous connaissons jouissent d'une certaine protection. C'est-à-dire qu'il serait faux de dire que les gens ne peuvent pas exprimer leur opinion, qu'ils ne peuvent pas s'organiser, qu'ils ne peuvent pas occuper Notre-Dame-des-Landes, qu'ils ne peuvent pas occuper la place de la République, tout ça. Donc on a quand même une vie politique extra-institutionnelle qui est assez riche. Et il est vrai que l'agent policière ne s'est pas très très bien comporté autour de la loi El Khomri. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est aussi, vous êtes historienne, donc vous savez que c'est pas la première fois que la police tape sans discriminer. C'est dommage que ce soit sous un gouvernement de gauche, effectivement, mais bon. Donc là, d'une part, je pense qu'il y a quand même cette vie-là. Mais après, la question, elle est effectivement, que fait-on lorsque nous défendons, et ça c'est la question de la désobéissance, vraiment, mettons que le référendum de Notre-Dame-des-Landes n'ait pas été biaisé. Il l'a été, donc il était, si je voulais le classer, c'est quelque chose où la question et le périmètre ont été faits de telle sorte qu'effectivement, la réponse, en gros, on pouvait penser qu'elle serait en faveur de ce projet. Donc on peut dire, on peut contester la légitimité de cette chose-là. Je suis très d'accord avec vous sur le fait que la manière dont on pose la question, les conditions qu'on met à l'obtention de l'assentiment sont très importantes. En particulier, moi, je trouve qu'il y a une condition qui devrait primer, c'est celle de l'autonomie des personnes. S'il y a des gens qui sont concernés, c'est pas un gouvernement de dire quelles questions ils doivent poser.
Mais sans vous demander, Albert Rogien, quelle aurait été la bonne question, mais comment est-ce qu'elle aurait dû être conçue, cette question, pour qu'elle paraisse légitime par les deux parties, et les opposants et les partisans? Est-ce qu'il aurait fallu que ce soit une question qui soit délibérée, disons?
Voilà, la seule chose qu'on peut dire, c'est ça, c'est un pari sur le fait qu'on laisse aux gens l'expression libre de leur volonté. On ne peut pas venir en disant « je suis Premier ministre, je vous impose cette question ». Il y a déjà là un biais de légitimité dès le départ. C'est mon avis. Bon, donc ça, mais laissons de côté, parce qu'il y a eu un autre... L'idée du référendum, c'est, je crois, Daniel Cohn-Bendit qui a dû la souffler en disant « Regardez à Stuttgart ce qui s'est passé. Vous savez, il y a une gare comme ça. Il y avait des manifestations toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Il y a eu un référendum. Le référendum a donné une victoire au « oui, on va construire la gare ». Donc, c'est peut-être trop technique. Il fallait construire un grand hub comme ça, genre les Halles à Stuttgart. Et les écolos n'étaient pas tellement d'accord parce que ça allait perturber toute la ville. Et ça a duré très, très longtemps. Finalement, il y a eu un vote. On a accepté de faire la chose et il n'y a plus de manifestations. On peut dire là, bon, indépendamment de tout, et je connais pas très très bien l'affaire, qu'il y a une certaine légitimité qui est sortie. Il y a un vote, les gens disent on est d'accord. De la même manière que pour les élections, on dit 50 plus 1, ben c'est eux qui ont gagné. Bon, là, donc ça reste après la question de lorsqu'une question ne s'éteint pas par la légitimité d'un vote. Donc quand le vote semble être illégitime et que des gens défendent son illégitimité, et c'est là où se pose la question de la désobéissance, de dire, eh bien, ce vote pour tel et tel... Mais encore une fois, faut-il justifier... La chose, c'est pas juste une minorité qui se lève le matin, parce que c'est ça l'idée qu'on transporte. C'est une minorité se lève le matin, on n'est pas d'accord, ben on va faire la loi chez nous. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut aussi, comme dans la désobéissance civile, il faut justifier les raisons pour lesquelles on s'oppose à un texte de loi, et que cette justification soit reconnue valide par la population en général.
Alors la désobéissance civile, c'est une voie, on peut en trouver une autre, même s'il y a un référendum qui finalement ne parvient pas, en tout cas à trancher une question de manière suffisante, c'est celle du consensus démocratique, puisque c'est l'expression que vous avez employée tout à l'heure. Et je voudrais vous faire écouter un petit extrait d'un épisode de La Grande Table de l'an dernier de Caroline Brouet. C'était en avril 2016. Chantal Mouffe, philosophe belge, était en France pour la promotion de son livre « L'illusion du consensus » chez Albin Michel, et elle disait toutes les réserves qu'elle pouvait avoir par rapport à cette question du consensus, justement.
une démocratie réelle, qui soit vraiment efficace, ne peut pas imaginer qu'il y ait un moment où tout le monde doit être d'accord. Parce que le politique, ça a toujours à voir avec le conflit et l'antagonisme. Et on ne peut pas en faire l'économie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, et pour moi, c'est ça la tâche de la démocratie, c'est établir des institutions qui, lorsque le conflit va émerger, vont permettre à ce conflit de prendre ce que j'appelle une forme agonistique plutôt qu'une forme antagonistique. La forme antagonistique, c'est-à-dire un conflit entre nous et eux, dans laquelle les eux sont conçus comme des ennemis qu'il faut éradiquer. Ça, c'est évident, c'est pas possible en démocratie, parce que ça conduit à la guerre civile. Par contre, il y a une possibilité de maintenir le fait qu'il y ait des antagonismes. Antagonisme, par là, j'entends un conflit qui ne peut pas avoir de solution rationnelle. C'est-à-dire, il y aura toujours quelqu'un qui va gagner ou qui va perdre. Et je crois que ça, c'est, pour moi, c'est fondamental dans ma vision du politique. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir comment on peut amadouer, apprivoiser cet antagonisme et permettre justement l'expression du conflit. Marcel Mauss avait une très belle expression à propos de ça. Il disait, il faut faire les institutions qui vont permettre de s'opposer sans se massacrer. Je trouve ça vraiment très juste comme expression.
Voilà, Chantal Mouffe, donc L'illusion de consensus, un livre qui a été publié chez Albin Michel. C'est intéressant ce qu'elle dit, notamment Ludivine Montigny, c'est-à-dire il y a des gens qui vont gagner et il y a des gens qui vont perdre. Est-ce qu'il ne faut pas, en démocratie, est-ce que ça ne fait pas partie des règles du jeu que de se dire il faut, à un moment donné, accepter aussi d'être dans le camp des perdants?
Bien sûr, mais la question que je repose, c'est celle du cadre. C'est-à-dire que, par exemple, l'allusion à laquelle faisait référence Chantal Mouffe, c'est par exemple la démocratie grecque dans la cité. Pour moi, la politique, c'est ça. C'est la police, mais pas avec, c'est pas écrit CE, mais IS, la police au sens grec, la cité, où le politique est la chose commune et le bien commun. Et bien sûr qu'il y a du dissensus. Là, les historiens et les historiennes l'ont bien montré. C'est pas du tout l'harmonie sans désaccord. Au contraire, il y a du dissensus. Mais le politique est la chose partagée. Et ce qui s'invente dans bien des lieux alternatifs, qui sont menacés, pour autant, ce qui s'invente, c'est cette mise en commun de la chose politique. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut aussi revoir, surtout que tout le monde fait le constat que ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Tout le monde fait ce constat, il y a une abstention incroyable. Enfin, et donc, il faut trouver autre chose ou revenir à d'autres choses. Et pourquoi pas? Vous savez, en 1848, il y a un très beau livre de Samuel Hayat à ce sujet. Les républicains, ils étaient devant une alternative. C'était soit la démocratie représentative avec des députés, hein, et puis de l'autre, une démocratie beaucoup plus locale, directe, avec des conseils de quartier, des conseils de communes, des conseils de villages, etc. Et c'est la première option qui a triomphé, mais elle est historiquement déterminée et elle peut changer. Et moi, j'espère qu'elle changera.
Albert Auger, en démocratie, il faut faire vivre le dissensus, mais à un moment donné, il faut bien trancher.
Oui, mais c'est des évidences, c'est des portes ouvertes qu'on enfonce tout le temps. Évidemment qu'on tranche, c'est comme si la démocratie était impuissante, qu'il n'y avait pas de décision. Il y a toujours des décisions, il y aura toujours des décisions, que ce soit dans des régimes autoritaires, dans des régimes démocratiques. Je pense que Chantal Mouffe fait une petite confusion, hein, néanmoins, je trouve. Ce qui est important, c'est surtout que pour revenir un peu à ce que je disais sur l'autonomie d'expression des personnes et la légitimité des questions, ce qui est important, c'est la procédure qui est mise en place. C'est mettre d'accord sur la procédure, pas sur le résultat. Si on focalise sur le résultat, on va dire il y aura des losers, il y aura des winners. C'est pas très intéressant, ça. Parce que les gens vont accepter le résultat d'un vote ou d'une délibération si la procédure ne fait pas doute parmi les gens. C'est bien ce qui se passe pour les élections. Quand les élections sont truquées en Russie, bon, ben les gens ne prêtent pas beaucoup d'importance au résultat de l'élection. Ils peuvent dire, mais alors, là aussi, on pourrait dire, c'est incroyable. En Afrique, quand les populations se rebellent contre des élections qu'elles jugent truquées. Donc la question, c'est celle de... Là où il faut se mettre d'accord en démocratie, c'est sur la procédure. Et pour revenir au cas wallon, c'est bien parce que la procédure n'a pas été respectée par les autorités fédérales belges ou par les autorités européennes. C'est parce que les procédures n'ont pas été respectées à Sivens, c'est parce que les procédures n'ont pas été respectées à Notre-Dame-de-Lande qu'on peut attaquer les gens en disant vous êtes dans l'illégalité, vous avez beau être des élus du peuple, mais vos actes et vos gestes sont illégaux.
Et est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une majorité qui considère que la procédure de l'élection présidentielle, qui est l'élection la plus populaire aujourd'hui en termes de participation, que cette procédure est respectée, qu'on arrive à accepter que finalement un président qui soit extrêmement bas dans les sondages reste légitime aux yeux de la population, ne la conduise pas à prendre les armes ou aller dans la rue
davantage. Là, je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a un respect par le personnel politique de la clause de stabilité des institutions, qui fait qu'on va pas descendre dans la rue en demandant la démission par la violence. C'est quelque chose qui ne se fait plus. Ça pourrait revenir, mais ça ne se fait plus. Donc c'est pas ça. La procédure, second point, la procédure de l'élection du président de la République au suffrage universel, elle me semble ne plus faire du tout consensus, au sens où elle a perdu totalement de son sens aujourd'hui, et on voit bien ce chaos des primaires, ce qui se passe. Là, il y a une vraie question pour la démocratie française qui est celle de changer de procédure ou revoir la procédure pour l'élection du président.
On avait d'ailleurs fait il y a quelques mois de cela une émission qu'on avait intitulée « Faut-il boycotter l'élection présidentielle ?» Il y a eu un appel au boycott dans la presse. Ce sera d'ailleurs peut-être une question qu'on aura l'occasion de poser une prochaine fois dans notre club du vendredi du Grain. Merci beaucoup à tous les deux. Finalement, c'était pas si mal à deux. Vous voyez, 40 minutes, on aurait pu rester beaucoup plus longtemps avec vous pour parler de ces questions. Voilà, question à tiroir évidemment. Dès qu'on évoque la démocratie. Merci donc Albert Augien, je rappelle le principe démocratie à la découverte avec Sandra Laugier, Ludivine Bantini. On se retrouve bientôt, je me demande même si c'est pas vendredi prochain. Merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Antoine Tricot, Céline Leclerc, Mathilde Barbier-Isolte-Sicard, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son ce soir Anthony Thomasson. On se retrouve lundi à 18h20, la question sera la suivante. L'économie collaborative supporte-t-elle la régulation ?